rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Radio Graphite de nous accueillir. Merci à vous de nous écouter. Donc, c'est le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne avec aujourd'hui Anne, Frédéric, Amy et moi-même, Antoine. Comme vous le savez peut-être, les bibliothèques ont rouvert récemment de manière un peu plus large. Il y a encore des restrictions dues à la pandémie. Par exemple, on ne peut pas encore vraiment faire d'événements. Mais on accueille par exemple la semaine prochaine un concert un peu expérimental qu'on organise avec l'UTC, qui est un concert de jazz sur l'innovation, qui malheureusement ne sera pas ouvert au public, mais vous pourrez écouter ce concert sur les réseaux sociaux et sur Internet en suivant en gros l'UTC ou les bibliothèques ou la ville de Compiègne. Alors aujourd'hui, dans ce rendez-vous culture, on va parler de livres, de disques, de séries. On va commencer avec un roman policier, Carnaval de Ray Célestin. On continuera avec un autre roman, L'habit ne fait pas le moineau, de Zoé Brisby. On enchaînera avec une bande dessinée, L'Arabe du futur, de Riyad Satouf, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On continuera avec Margaret Atwood et son roman Alias Grace. Après une petite pause, on passera sur Deutschland 83, une série dont vous avez peut-être entendu parler. Ensuite, La Consolation de l'Ange, un roman de Frédéric Lenoir. Un peu de musique avec Grand Prix, le disque de Benjamin Biolay. On parlera d'une exposition, L'espace d'un instant, qui se passe actuellement à la Bibliothèque Morichon et à la Bibliothèque Saint-Corneille. Et on terminera avec deux romans, Une année à la PJ de Pauline Guénat et Les derniers mondains de Camille Pascal. Anne, je vous passe la parole pour nous parler de Carnaval de Ray Célestin.
Bonjour. Alors oui, je voulais vous parler de ce livre, donc en lien avec l'animation, le concert de jazz la semaine prochaine, parce que c'est un policier historique qui est baigné dans une atmosphère de jazz, qui m'a beaucoup plu. Il est passionnant et très instructif. Il est basé sur des faits réels. On est à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en 1919. Un serial killer, désigné le tueur à la hache, terrorise la population. Son signe particulier, il laisse des cartes de tarot sur le lieu du crime et il ne s'en prend qu'à des familles d'origine italienne. La police est perplexe. Est-ce un meurtrier qui appartient à la communauté noire ou est-ce un règlement de compte lié au quartier italien, au mafieux, maquillé en rite vaudou? Plusieurs personnages vont mener l'enquête et on suit leur progression à tour de rôle. Donc le lecteur a un point de vue omniscient et le jeu est de se demander quel est l'enquêteur qui va trouver l'assassin en premier. Au-delà de l'intrigue policière qui est dense et complexe, c'est le portrait d'une ville qui est dressé. La Nouvelle-Orléans, c'est vraiment le sujet du roman. C'est la ville de toutes les excentricités. Elle est sur le point en plus d'être dévastée par un nouvel ouragan. Elle est incroyablement dépeinte. C'est magique. On s'y croirait vraiment. Et elle a une population hétéroclite où règne la ségrégation raciale. Et surtout, ce qui est indissociable de la ville, c'est la musique. Donc le jazz est partout, dans les clubs, les enterrements, jusque dans la lettre qu'envoie le tueur, où il prévient que si on n'écoute pas de jazz dans les maisons, on pourrait être tué. Et on rencontre surtout aussi un personnage réel qui est Louis Armstrong, dans son adolescence, et où on voit aussi, c'est très intéressant, la condition paradoxale de ces musiciens noirs qui sont appréciés par les blancs que quand ils montent sur scène pour jouer de la musique. Donc si vous aimez les gangsters, la mafia, et en plus l'histoire des États-Unis. Je vous conseille vraiment cette série parce que ça, c'est le premier tome d'une quadrilogie. Le deuxième tome est sorti aussi, il s'appelle Mascarade et il se passe à Chicago pendant la Prohibition. Le troisième tome, Mafioso, on est à New York en 1947 avec Charlie Parker. Et le quatrième tome va bientôt sortir et où on sera à Los Angeles avec Chet Baker dans les années 60. Voilà, Frédéric, à toi la parole.
Alors, je vais vous présenter « L'habit ne fait pas le moineau » de Zoé Brisby. Alors, quelques mots sur l'auteur. Zoé Brisby est le jeune auteur de deux romans, « L'habit ne fait pas le moineau » et son deuxième roman. Dans ses histoires pleines de fraîcheur, elle met profondeur des sentiments et humour. Alors, quelques mots sur l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Maxine, qui était une fringante nonagénaire, qui a décidé de quitter la maison de retraite pour voguer par Mont et par Vaux. Elle a besoin d'une voiture et cherche à faire du covoiturage. Elle fait la rencontre alors d'Alex, 25 ans, un peu perdu à cause d'un chagrin d'amour et qui a une place dans sa voiture. Leur rencontre est assez particulière, je ne vous dis pas plus. Une rencontre qui sera le départ d'une aventure sans doute la plus belle de leur vie. Alors c'est ce voyage, ce road trip frais et plein de surprises multiplie les événements s'enchaînent au même rythme que les sentiments. Alors j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai passé un excellent moment avec L'habit ne fait pas le moineau. Vous comprendrez le titre en le lisant. En effet, Maxime a tendance à transformer les maximes, ce qui crée de vraies tranches de rigolade dans le livre. Malgré des situations rocambolesques, Zoé Brisby traite des sujets très sérieux, mais elle les traite toujours sous un mode léger et dédramatisant, en fait. Les joutes verbales entre le jeune homme et la vieille dame sont tour à tour hilarantes et émouvantes. Chacun se livre sur son passé. On rit beaucoup dans ce roman et la note finale, je vous la laisse découvrir.
Merci Frédéric. Alors moi je vais vous parler d'une bande dessinée dont on a beaucoup parlé il y a un mois, qui est L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Alors l'Arabe du futur, je vais vous parler du tome 5, mais en fait L'Arabe du futur c'est une série qui se déroule depuis plusieurs années et qui raconte la vie de l'auteur entre la Syrie, la Libye, la Bretagne. C'est l'histoire d'un petit garçon à qui son père dit fièrement qu'il sera l'Arabe du futur. Et puis en fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça passe par la Bretagne, ça passe par l'Arabie Saoudite. Et en fait, c'est Riyad Satouf. Donc c'est furieusement intelligent. C'est des observations très bien vues sur l'adolescence. Alors si certains d'entre vous connaissent La vie secrète des jeunes ou Les cahiers d'Esther, c'est un peu toujours dans cette veine-là. C'est-à-dire des réflexions très très bien vues sur l'adolescence, une période à laquelle on ne comprend pas grand-chose de manière générale. Quand on la vit, on ne comprend rien. Et quand c'est nos enfants qui la vivent, on en comprend encore moins. Et Riyad Satouf, c'est pas mal justement pour essayer de saisir quelques aspects particuliers. Notamment, il y a toujours chez Riyad Satouf, et en particulier dans L'Arabe du futur, une réflexion très puissante sur la virilité, sur les valeurs de la masculinité, sur ce que ça implique, sur ce que ça cause dans les familles. L'œuvre emblématique de Riyad Satouf qui parle de ces questions-là, c'est peut-être Pascal Brutal, qui est un ovni littéraire et en matière de bande dessinée. Une réflexion sur la nouvelle virilité dans la France, je crois, du deuxième septennat d'Alain Madelin. Donc c'est une fiction assez incroyable. Et dans L'Arabe du futur, et dans le tome 5 notamment, on retrouve un peu tout ça, toutes ces réflexions sur la jeunesse, l'adolescence. Tout ça lié avec l'histoire du Moyen-Orient, de la France et de la vie de Riyad Satouf. Amy, je vous passe la parole pour nous parler de Margaret Atwood.
Merci Antoine. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc du roman de Margaret Atwood qui s'intitule Alias Grace. Donc, si vous n'avez pas d'idée lecture en cette période de fête, que vous êtes anglophone ou débutant en anglais, où vous voulez découvrir tout simplement donc un roman autour d'une cup of tea, donc, qui est la traduction de tasse de thé en anglais. Je vous présente un roman intitulé donc, Alias Grace, d'une romancière canadienne, donc, que vous connaissez sûrement, j'imagine, donc Margaret Atwood. Donc, Alias Grace est le titre original du roman décliné en série télévisée il y a peu, qui est un des tout derniers romans donc, de l'auteur, qui est donc également l'auteur de La Servante écarlate. Donc difficile ici de ne pas faire le lien entre ces deux univers. Donc dans les deux cas, il est question d'une jeune servante, prisonnière d'un système de répression des femmes. L'une est projetée dans le futur et l'autre est campée dans le passé. En effet, l'histoire du roman, qui est d'ailleurs inspirée d'un véritable fait divers historique, se déroule dans le Canada du 19e siècle, période durant laquelle un psychiatre tente d'évaluer si une meurtrière devrait être graciée pour aliénation mentale. Condamnée à la prison, elle suscite l'intérêt de beaucoup de monde et surtout d'un médecin qui va tenter de démêler le vrai du faux sur son témoignage. Et ce qui fait qu'il y a une tension qui monte crescendo au fur et à mesure du roman, car Margaret Atwood, dans ce thriller psychologique, cherche à nous perdre sur l'identité de Grace. Donc sans trop vous en dévoiler, on se demande sans cesse si Grace est innocente ou coupable. Et où est la frontière entre la folie, la manipulation et la vérité? Et on retrouve bien les thèmes chers à Margaret Atwood, c'est-à-dire le fait de s'interroger sur la place des femmes dans nos sociétés et sur ce que chacun fait de sa conscience comme de sa liberté. Et vous pourrez retrouver ce roman en anglais à la Bibliothèque Montrichon.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Vous venez d'entendre Under Pressure de Queen et David Bowie. Rien de tel pour vous donner envie de regarder la série dont je vais vous parler, Deutschland 83 et sa suite Deutschland 86. C'est une série allemande créée par Anna et Jörg Winger. Anna Winger, c'est la créatrice d'une série que j'adore aussi, qui est Unorthodoxe, que l'on peut voir sur Netflix. Donc, pour Deutschland 83, c'est un thriller d'espionnage aux accents historiques, et très efficace et vraiment captivant. On est en 1983, donc. Un jeune soldat d'Allemagne de l'Est est recruté par les services secrets, la Stasi, pour espionner l'ennemi. Il est infiltré dans la base militaire ouest-allemande à Bonn. Il doit renseigner la RDA sur les risques d'une guerre nucléaire, rien que ça, et surveiller les projets d'armement des USA contre l'URSS, ainsi que les visées stratégiques de l'OTAN. On est dans une période tendue. C'est la crise des euromissiles et Reagan a qualifié l'URSS d'empire du mal. Donc la série va s'appuyer sur des images d'archives, de journaux, de manifestations et de discours politiques. Et on suit donc la mission d'infiltration de notre héros entre tensions politiques et des opérations périlleuses. L'enjeu, c'est la survie de notre héros dans ce monde dangereux. Cette série est chargée en action et en rebondissement. On est dans le registre du pur divertissement, privilégié à un cours d'histoire. C'est un mélange entre espionnage et romance, vraiment très, très bien rythmé. La série rend bien l'atmosphère de ces années. Notre héros, Martin, incarne parfaitement les contradictions de son pays, partagées entre l'Est et l'Ouest, mais entre ses missions et ses désirs. On s'amuse des différences culturelles et des différences différents modes de vie entre l'Est et l'Ouest. Ça illustre parfaitement le conflit aussi des générations. Les jeunes s'interrogent sur le passé de leurs parents. Et il y a beaucoup d'images aussi des mouvements étudiants pour la paix. Et on est aussi à la période de l'arrivée du sida, donc des inquiétudes. Et on voit aussi les livres interdits qui circulent. C'est vraiment très intéressant au niveau historique. Mais... Et la mise en scène est très soignée, avec des acteurs vraiment impeccables. Et surtout, ce que j'adore dans cette série, c'est la bande originale, qui est vraiment renversante. Donc on a tout ce qui s'est fait de mieux dans les années 80. Donc la saison 2, Deutschland 86, est géniale aussi. Même les personnages ont pris de l'épaisseur, donc elle est encore plus passionnante. Le héros se retrouve exilé en Angola. Donc on est en pleine apartheid, avec la montée du terrorisme, les trafics d'armes, donc toujours le sida, et Tchernobyl aussi. Et on est au lendemain de l'arrivée de Gorbatchev. Bientôt, on aura la Deutschland 89 qui devrait arriver, qu'on peut voir donc sur MyCanal et aussi qu'on a en DVD à la bibliothèque.
Alors, je vais vous parler de La Consolation de l'Ange de Frédéric Lenoir. Quelques mots sur Frédéric Lenoir, qui est une figure assez médiatique. Donc, il est philosophe, sociologue, historien des religions, conférencier et écrivain. Il a notamment. Il travaille encore pour. La revue, j'ai oublié le titre de la revue, mais elle est très connue, Le Monde des Religions, voilà. Et il a aussi animé de 2009 à 2014 l'émission radiophonique Les Racines du Ciel, consacrée à la spiritualité. Il a été également l'élève d'Emmanuel Lévinas. Donc, quelques mots sur l'intrigue de La Consolation de l'Ange. Après une tentative de suicide, Hugo est réanimé et placé dans la même chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. Entre ce jeune homme qui n'entend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de Dieu, du destin, de la liberté, du bonheur et de l'amour. La relation de ces deux êtres aboutira à des confidences intimes de Hugo et permettra à Blanche de partir en paix car elle se savait condamnée. Bon, vous voyez, le propos est beaucoup moins léger que pour Zoé Brisby, mais toutefois, ce roman m'a beaucoup plu parce qu'il est apaisant pour le cœur, mais aussi l'âme et l'esprit. C'est un livre aussi pour l'imaginaire. Frédéric Lenoir livre au lecteur un conte philosophique dans lequel il reprend des idées abordées dans plusieurs de ses œuvres. En filigrane du discours, le lecteur reconnaît la pensée dominante de Spinoza. Bon, il faut savoir que Frédéric Lenoir laisse une place à l'irrationnel. Donc, si vous êtes rationaliste convaincu, peut-être que ça ne vous plaira pas autant qu'à moi. Mais certains pourront établir un rapprochement entre le récit principal et le film Harold et Maude, inspiré de la pièce de théâtre de Colin Higgins. C'est vraiment une complicité qui s'établit entre Blanche et Hugo et franchement, ça change les idées.
Donc je vais vous présenter un album d'un artiste français que j'ai redécouvert, car j'avais surtout écouté son album Vengeance. Mais cette fois-ci, on le retrouve dans un album rétro-moderne qu'il présente lui-même comme un concept album inspiré de l'univers de la Formule 1 qui s'intitule Grand Prix de l'artiste Benjamin Biolay. Il nous s'initie à un album où il aborde ses sentiments les plus intimes, notamment tout ce qu'il a laissé sur le bord de la route. C'est un vrai régal d'entendre Benjamin Biolay, sa voix chaude, une douce nostalgie, rythmée par des textes ciselés, élégants, et un mélange de sentiments, de beauté tellement nécessaire. Et en fait, c'est une véritable bulle d'oxygène. Et pour moi, il est un de ces artistes qui nous rendent l'existence plus légère et plus belle. Et j'ai beaucoup apprécié de lui les titres Vendredi 12, pour le clip, et la chanson, qui nous replonge dans l'univers du cinéma italien des années 70. Et bien évidemment, le titre envoûtant, Comment est ta peine.
Merci beaucoup, Amy. Moi, je vais vous parler, pour la première fois d'ailleurs dans cette petite émission, d'une exposition. Alors, c'est une exposition qu'on a en ce moment dans deux lieux. C'est la première fois qu'on fait une exposition dans deux lieux, à la Bibliothèque Montrichon et à la Bibliothèque Saint-Corneille, et ça s'appelle L'espace d'un instant. Pourquoi l'espace d'un instant ? Parce que la photographe, Lucie Oliveira Gomez, choisit de saisir l'instant dans la vie de personnes qui pourtant ont énormément d'instants particuliers. En fait, il s'agit de 25 portraits de résidents du foyer Coalia de Compiègne. Parmi ces personnes, il y a des histoires de vie très différentes. Il y a des personnes qui sont françaises et qui ont connu des parcours de vie accidentés. Il y en a d'autres qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Congo. Il y en a aussi d'Afghanistan, de Géorgie. Et toutes ces personnes attendent un changement de vie, espèrent un changement de vie. Et ils sont entre eux un passé souvent assez lourd et un avenir qu'on leur souhaite radieux. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que les 25 portraits sont associés de textes qui ont été rédigés par l'écrivaine publique Nella Mocker, avec les résidents eux-mêmes, avec leur accord, et ils accompagnent ces portraits, et à la fois les portraits et les textes racontent justement ces histoires très compliquées, mais en même temps très passionnantes. Donc c'est une exposition qu'on a faite avec le Rotary 2.0 et le foyer Coalia de Compiègne. C'est une exposition dont on est très fiers et que vous pouvez voir jusqu'au 31 janvier à la bibliothèque Morichon et à la bibliothèque Saint-Corneille.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Vous venez d'entendre Neun und Neunzig de Nena, musique emblématique de la série que je vous recommande, Deutschland 83. Alors, pour le prochain roman, en fait, je voulais vous parler au départ de L'anomalie d'Hervé Le Tellier, que j'adore, qui est vraiment palpitant et très surprenant et passionnant. Mais je ne vais pas vous en parler parce qu'il a eu le prix Goncourt, donc tous les médias en parlent. Donc, je vais vous parler d'un livre plus confidentiel qui est sorti au début de l'année, de Pauline Guénat, 18-3, une année à la PJ. 18-3, c'est le numéro de l'arrêté qui définit les compétences de la PJ. Pauline Guénat a passé un an donc dans une PJ. Elle a suivi les enquêtes des différentes brigades, donc les stupéfiants, la répression du grand banditisme et la crime. Elle relate dans ce livre au jour le jour, le quotidien de ces différentes équipes. Donc au départ, c'est assez factuel. Elle décrit simplement. Mais on se prend vite au jeu, en fait. Et au fur et à mesure, on connaît les personnages, les enquêtes, et on a vraiment envie de poursuivre. C'est passionnant, en fait, et surtout par la restitution qu'en fait l'auteur, qui écrit très bien. Et elle propose un autre regard sur la police, loin du sensationnel prisé par les médias, et sans effet dramatique. Elle s'attache à des détails du quotidien avec une vraie qualité d'écriture. C'est du docu-fiction, de la littérature du réel, mais vraiment respectueuse des institutions et de ses hommes. Enfin, des hommes, des institutions. Et en même temps, c'est touchant. Elle ne montre pas des héros, mais des hommes, des femmes qui font leur travail, qui oscillent entre résignation et courage. Bon, il n'y a pas de complaisance non plus. Hein. Elle ne dit pas, regardez, c'est pas facile le métier de policier. C'est vraiment, c'est subtil. Mais on voit aussi des hommes qui croulent sous la paperasse, qui accumulent des dossiers et des heures de sommeil en retard. Les moments difficiles, elle ne nous épargne rien, hein, du sordide au tragique. Donc elle s'écarte de toute complaisance et elle souligne parfois même la drôlerie de certaines situations. Heureusement, il y a un peu de moments légers. Donc c'est vraiment une lecture passionnante et addictive. On a vraiment, on se passionne pour les différentes enquêtes et on aurait presque envie de passer une autre année avec elle. Voilà, donc à Frédéric.
Je vais évoquer pour vous Les derniers mondains de Camille Pascal. Quelques mots sur Camille Pascal. C'est un auteur, historien et aussi une personnalité de l'audiovisuel français. Il a été secrétaire général du groupe France Télévisions. Et il a aussi travaillé pour les gouvernements de Nicolas Sarkozy. Et aussi, actuellement, il écrit les discours de Jean Castex. Enfin, c'est le co-auteur des discours de Jean Castex. Et la même année, il a été présélectionné pour le Goncourt pour la Chambre des dupes, que je vous présenterai sans doute une autre fois. Donc, dans Les derniers mondains, il ne faut pas s'attendre à trouver une chronique mondaine, mais plutôt une merveilleuse évocation des milieux fermés, aristocratiques du Faubourg Saint-Germain et des châteaux, des milieux qui restent encore aujourd'hui hermétiques. Camille Pascal, avec un goût exquis des formules, des anecdotes, sait nous en retracer la vie, les grandeurs, les magnificences, mais aussi les misères. Ainsi, lorsqu'il évoque un dîner dans les combles d'un château où sont réfugiés les descendants d'une grande famille. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette évocation, on ne peut pas vraiment parler de roman, c'est une langue maîtrisée en virtuose et sur un ton qui ne parvient pas toujours à éviter la condescendance. C'est comme le Proust du XXIe siècle qui semble se dévouer pour offrir à son tour des perles au pourceau et nous inviter à le suivre, un signe faveur, dans l'intimité jalousement gardée des grands de ce monde. S'il est une leçon que j'ai bien retenue de cet ouvrage, c'est qu'une devise semble supplanter toutes les autres au cœur de cette aristocratie bontain. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce monde où rien n'est laissé au hasard, où chaque geste, tenue, parole obéit à un code immémorial, un monde où chacun sait quelle est sa place et comment la tenir, que ce soit à table ou au salon, ce monde, Camille Pascal nous en donne les clés et non sans humour d'ailleurs, c'est un autre trait de ce livre qui m'a beaucoup plu.
Merci beaucoup Frédéric. On arrive à la fin de notre rendez-vous culture. Donc merci Frédéric, merci Anne, merci Amy. Je rappelle l'ensemble des titres qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc on a commencé avec Carnaval de Ray Célestin et L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby. Puis on a parlé de L'Arabe du futur, la bande dessinée de Riyad Satouf, et Alias Grace, le roman de Margaret Atwood. On a parlé de la série Deutschland 83, de La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir. On a parlé d'un disque, Grand Prix, de Benjamin Biolay, de l'exposition L'espace d'un instant, et puis les deux romans qu'on vient tout juste d'évoquer, Une année à la PJ de Pauline Guénat et Les derniers mondains de Camille Pascal. Alors les prochains rendez-vous culture auront lieu le 22 janvier, le 12 février et le 19 mars prochain. On aura le plaisir de vous y revoir, soit à la radio, soit sur place à Saint-Corneille, soit autrement, on n'en sait rien. On est tous, comme vous toutes et tous, suspendus à la situation sanitaire. Mais on vous remercie de votre écoute et on vous souhaite une excellente soirée.